Kering.
Kering, pour moi, c'est un groupe de luxe, de Pinot. Et c'est un mot breton, je crois, non ?
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen, l'émission qui débouche le gai savoir, car je vous rappelle que notre sponsor n'est pas une marque du groupe Kering. Malgré tout, nous avons choisi de zoomer aujourd'hui non pas sur les géants du secteur de l'entretien de canalisation, mais sur le numéro 2 du luxe. Alors que l'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit aujourd'hui dans un climat tendu, on a décidé de se pencher sur ce groupe dont vous connaissez tous le nom, mais pas forcément beaucoup plus. Kering. Lucas De Meo doit prendre dans quelques jours les rênes du fleuron français du luxe, un fleuron un peu à la peine ces dernières années. Était-ce néanmoins une raison pour offrir un bonus d'accueil de plus de 20 millions d'euros à De Meo ? Moi, quand je suis arrivé sur Inter en bonus d'accueil, j'avais eu un mug Radio France. Ça ne m'avait pas empêché de viser la performance et d'emmener Zoom Zoom Zen vers les sommets d'audience. Alors, que se passe-t-il au sein du groupe Kering ? L'arrivée de Lucas De Meo signifie-t-elle la mise sur la touche de François-Henri Pinault ? En tout cas, en termes de chiffre d'affaires, c'est une très belle journée pour Kering, puisque Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef retailliste, a choisi ce matin de fêter le départ de François Bayrou, ce suppôt du socialisme, en renouvelant sa garde-robe. Chemise Saint-Laurent, bouton de manchette boucheron siglé CL, nouveau soulier Balenciaga, Cyril a effectué dans Paris une virée shopping dont vous savez déjà tout, puisque je vous rappelle que maintenant notre rédac chef est si connu qu'il a des paparazzi qui le mitraillent lorsqu'il tente de passer incognito place Vendôme. C'est insupportable, heureusement ils n'ont pas compris que je sortais de chez Laetitia Casta. Oh. Voici en aurait fait sa une, soupirait Cyril, déjà lassé par le star system. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Isabelle Chaboux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Isabelle, vous êtes prof à la Grenoble École de Management et spécialiste de l'analyse financière des sociétés du luxe. Vous allez nous expliquer ce que représente l'entreprise Kering aujourd'hui à travers le monde. Une entreprise qu'on dit en perte de vitesse et qui change en tout cas de direction. L'ancien patron de Renault, Lucas De Meo, doit prendre donc les rênes du groupe dans quelques jours. Une assemblée générale des actionnaires doit valider ce choix aujourd'hui même. Kering va-t-il si mal ? Comment le numéro 2 mondial du luxe peut-il redorer son image ? Quelles sont les conséquences pour l'économie française, c'est ce que vous allez nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui sont encore sous le choc du montant du bonus d'accueil de Lucas De Meo. Mais rappelez-vous, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur.
Non, non.
Vous, en bonus d'accueil, vous aviez eu des t-shirts Zoom Zoom Zen, ce qui ne vous a pas empêché de vous épanouir pleinement dans votre métier.
Et de bonnes factures en plus.
Ouais, hein. J'ai perdu le mien d'ailleurs.
Ah, bah, cette lavage, moi je crois que j'étais était en peluche.
J'ai perdu dans mon déménagement. Mais...
Ah. Bah, c'était Maison Labille, j'étais gentil.
Ah, c'est
bon,
vrai,
bref.
C'est vrai.
Allez, la petite pub.
À vos côtés, Isabelle Chaboux, elle est clairement la fashionista de la bande. Son goût pour la mode est tel et occupe une place si centrale dans sa vie qu'elle avait tout simplement vomi la première fois qu'elle avait vu Cyril arborer son sweat French Touch.
Après, il l'a plus jamais remis d'ailleurs.
Ah, vous étiez habitué quand même, il l'avait mis deux, trois fois quand même.
Enfin, il y a celui de Pierre avec marqué chocolatine aussi.
Ah, c'est encore pire, c'est vrai. Manon, chaque après-midi, vous nous livrez une pièce jointe très attendue.
Oui, alors aujourd'hui, dans ma pièce jointe du jour, un styliste italien au goût très raffiné dont on entend beaucoup parler dernièrement.
Peut-être parce qu'il est mort.
Non.
Ah non, c'est pas lui. Hein.
J'aime bien quand vous essayez de deviner comme ça.
Face à vous, Isabelle, il vous dira certainement en antenne que lui aussi adore la mode. N'en croyez pas un mot. Globalement, c'est d'ailleurs devenu la devise du service recouvrement de l'URSSAF, ne jamais croire un mot de Quentin Lui est une maxime qui doit guider votre vie. Tenez par exemple, 3 ans qu'il doit organiser une sortie karting pour l'équipe. Pensez-vous qu'il l'ait fait ? Est-ce que ça a avancé ce dossier-là ?
Ça a avancé ce week-end puisque vous nous avez dit qu'à Dreux, en mangeant chez Léon.
Mais je ne peux pas m'occuper de vous.
Juste à côté,
en étant invité.
Si on est invité chez vous.
Moi, je m'occupe de la bouffe, occupez-vous du karting.
Et ben, on fait le même week-end et on dort chez vous.
Très bien.
Avec un karaoke.
Et Bayoko ce soir.
Et Bayoko ce soir, c'est vrai qu'on est invité aussi au Bayoko. Quel
week-end,
les amis.
Quel week-end mis en temps, bien sûr.
J'ai hâte.
Mon cher Quentin, vous êtes allé voir les passants dans la rue, comme à votre habitude, et vous les avez interrogés sur le groupe Kering.
Je suis allé traîner mon sourire enjoliveur, comme dirait Manon, du côté de la bourse de commerce qui est aujourd'hui la Fondation Pinault. Est-ce que vous connaissez Kering ? Que vous inspire le nom Pinault ? Et quel est votre rapport avec ces grands noms, ces grandes fortunes en France ? Vos réponses complètement à la rue, au micro d'Inter, avant 16h30.
Vers 16h30, justement, il vous a valu la saison dernière vos plus beaux fous rires. Oyez, oyez, braves gens, voici le grand retour du quiz en mode bio-Tinder. Saurez-vous reconnaître ces géants du luxe à travers leur description ? Une chose est sûre, ça sera chaud. Pas aussi chaud, évidemment, qu'une veille sanitaire de la Marianoche.
MILF, trans, BDSM,
oui.
Bien membrée,
oui,
suceuse,
mais
etc.
Ça sera quand même chaud.
J'aime
chaud.
Pas quand vous faites ça.
Sera chaud pour un quiz de culture G, je veux dire.
Etc.
Ça reste un quiz de culture G.
C'est
quand même. Juste avant 17h, nous serons rejoints par l'intenable GC qui adore s'habiller chez Saint-Laurent, mais qui préfère encore ne pas s'habiller du tout. On l'a vu dans ses stories Instagram cet été. Après 17h, restez à l'écoute. On zoomera sur le futur de l'automobile à l'occasion de l'ouverture du Salon de Francfort à Munich cette année, ne cherchez pas. Mais d'abord, Isabelle Chabou, je présentais Kering comme le numéro 2 mondial du luxe. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas ?
Effectivement, Mathieu, vous avez raison, ils étaient numéro 2 jusqu'à fin 2022. Oui, mais à partir de 2023, ils sont passés 3e derrière Richemont, le groupe Richemont, qui est un groupe suisse.
Les montres.
Voilà, les montres, la joaillerie, Cartier, Van Cleef, vous connaissez peut-être.
Bon, c'est Cyril qui connaît la place Vendôme, vous savez.
Et
moi.
Dernièrement, en 2024, ils sont même passés derrière Chanel. Mmh. Donc on a une...
Ils sont 4e du coup.
Oui, exactement.
C'est une dégringolade alors.
On peut le dire, au niveau du chiffre d'affaires en tout cas. Ouais.
Bah là, il y a l'Assemblée Générale, les actionnaires, ils sont mécontents. Donc ils sont...
Alors, l'Assemblée, en fait, c'est une Assemblée Générale mixte. Ce n'est pas pour se prononcer sur les comptes, comme l'Assemblée Générale ordinaire qui a lieu annuellement. Là, c'est plutôt pour... en tout cas, les principales résolutions concernent Luca De Meo, comme vous l'avez mentionné, pour avaliser sa nomination, sa rémunération XXL. Mmh. Vous avez parlé d'un package de bienvenue de 20 millions, mais il y a aussi sa rémunération brute annuelle.
C'est vrai, ne l'oublions pas.
Voilà.
20 millions aussi, c'est ça ?
Non, un peu moins.
Cyril, mais vous voyez trop gros.
Oui, je crois que... non, effectivement, il est à un fixe de 2 millions d'euros. Qui est un peu plus que ce qu'il avait chez Renault, qui était 1,7
million. Donc, mais il y a un petit variable aussi.
Exactement. Et en fait, sa rémunération brute représente que 12,5% de sa rémunération totale.
Ah oui, d'accord.
Donc, autant vous dire que la rémunération variable est assez...
Et ça, c'est ce qui doit passer ou pas
Alors là, effectivement, il y a disons, la répartition entre le fixe, le variable, le package de bienvenue, son fixe aujourd'hui. Et il y a plusieurs éléments dans le variable. Il y a du court terme et du long terme en action Kering, donc pour espérer qu'il redresse.
Pour l'inciter un peu à la performance.
Voilà, tout à fait.
Face à vous, Isabelle, un homme comme on n'en fait plus. C'est sa phrase d'accroche sur l'appli Disons Demain, le site de rencontre des 50 ans et plus. Cyril Lacarrière, vous n'êtes pas seulement la nouvelle coqueluche de la presse People et des petits curieux sur Instagram. Vous êtes et vous restez notre rédacteur en chef, notre facétieux pédagogue, véritable phare dans la nuit de l'info. Et vous allez une fois de plus nous le prouver en nous racontant Kering, d'où ça sort, sur cette douce musique.
Imaginez le fils d'un négociant de bois breton, fier de l'héritage.
Là, on est dans la Syrie.
La Syrie des Pinots.
Ah, c'est incroyable.
Ça sent le bois. C'est fou.
C'était plus des commerçants négociants que des...
Imagine le père Pinot avec sa scie.
T'imagines le père Pinot.
Il vient de loin.
Bon, bref. Le fils donc d'un négociant de bois breton, fier de l'héritage familial, il décide de suivre la voie tracée par son paternel. Mais le terrain de jeu est trop petit pour le fiston, alors il rachète, il restructure, il revend. Mais François voit plus loin, plus grand et surtout plus luxe. Dans les années 80, le groupe Pinot change d'envergure. François Pinot rachète coup sur coup, la Redoute, le Printemps et la Fnac. C'est l'ère des grands raiders français. Note pour Manon et Quentin, raiders ne sont pas seulement les barres chocolatées que vous connaissez peut-être.
Mais non, ils sont trop jeunes. Vous ne parlez qu'à moi, là.
C'est comme pas ça. Que c'est, mais...
Vous connaissez pas les Raiders?
Twix, tu connais Twix?
Oui.
Ben, Twix, avant, ça s'appelait les Raiders.
Ah, oui, okay. Ça, c'était quand nous étions...
Isabelle.
J'étais pas née, bon.
On n'est pas de la même génération.
Eh bien, c'est comme ça qu'on appelait les grands patrons qui lancent des opérations financières pour racheter des entreprises, parfois de manière sympathique, parfois beaucoup moins sympathique. Bref, fini le groupe Pinot, place à PPR pour Pinot Printemps Redoute.
Et l'autre moment de bascule, Cyril?
Eh bien, c'est quand François Pinot estime que la distribution grand public l'intéresse moins et qu'il se réoriente vers le luxe. Et là, c'est reparti pour une nouvelle frénésie d'acquisition. En 1999, François Pinault affronte Bernard Arnault pour prendre des parts dans Gucci, et c'est lui qui l'emporte. Viendront ensuite Saint-Laurent, Balenciaga, Boucheron ou encore Alexander McQueen. Et en 2013, on en arrive à un nouveau nom, Kering, un clin d'œil au mot breton care, qui veut dire la maison, voilà. Et au mot anglais caring, prendre soin. Un changement impulsé par le fils de François, François-Henri. Le fils qui a pris les rênes du groupe en 2005, qui est aussi le mari de la comédienne Salma Hayek, qui est aussi celui qui se fait doucement mettre sur la touche aujourd'hui, ce dont nous allons parler dans cette émission. Alors d'où ça sort Kering? Et bien de là, et c'était que le début de notre histoire.
Merci Cyril, et pour rendre hommage à cette incroyable ascension sociale dans la famille Pinot, on réécoute un extrait du père de François Pinot, qui, je vous le rappelle, sciait lui-même le bois.
Bûcheron.
Bûcheron en fait.
Je vous remercie Justin Fontana pour l'illustration sonore de d'où ça sort.
On y est.
C'est magnifique. Isabelle Chabou, le patron de Kering aujourd'hui, c'est François-Henri Pinot. Ça fait près de 20 ans qu'il en est le président. Qu'est-ce qu'il a apporté au groupe, mis à part un changement de nom?
Alors lui, il a continué la diversification et les acquisitions dans le domaine du luxe, parce que son père avait déjà amorcé cette tendance, mais il a continué. Vous avez cité Balenciaga, vous avez cité Bottega Veneta, etc. Et il a aussi créé en 2014 Kering Eyewear, vous avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, on a même eu un partenariat avec Kering et Google sur les nouvelles lunettes connectées. Okay. Mais avant d'arriver à ces lunettes connectées qui vont certainement plaire aux jeunes, il a donc en fait internalisé la production de lunettes pour toutes les marques du groupe. Donc ça, ça a été quand même quelque chose d'important. En 2023, il a réalisé une acquisition significative, qui est celle de Creed, donc qui est un leader dans la parfumerie luxe d'origine anglaise, une maison emblématique. Et puis il a également pris une participation dans Valentino. Donc développé à la fois Kering Beauté par Creed, et puis continuer ses achats dans le luxe, et également investir dans des biens immobiliers de premier choix à New York, Milan, Paris, donc pour constituer un patrimoine très très solide.
On rappelle peut-être à nos auditeurs pour qu'on puisse bien se figurer ce que c'est que Kering, les marques qu'ils peuvent connaître. Il y a Gucci, il y a Yves Saint Laurent, il y a Bottega Veneta, on l'a dit, Balenciaga, Alexander McQueen aussi.
Oui.
Ça, c'est les plus grosses.
Oui, alors ça, c'est tout ce qui est plutôt le pôle mode, couture, maroquinerie. Et puis après, vous avez aussi des marques comme Pomellato dans la bijouterie. Ah. C'est une entreprise d'origine italienne. Vous avez Boucheron. Vous avez cité tout à l'heure les boutons de manchette, Mathieu. Vous avez maintenant donc Kering Eyewear et Kering Beauté qui existent aussi en parallèle. Et vous avez aussi, Ginori qui est dans l'art de vivre.
Et j'ai lu que les ventes de Gucci ont chuté de 26% au premier semestre. C'est énorme, une chute de 26%. Qu'est-ce qui explique ça, ce désamour pour Gucci, la marque préférée de Quentin?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a quand même l'effet post-Covid où on sait qu'il faut le dire que les ventes de 2022-23 ont été artificiellement, je dirais quand même, enfin 2021-2022 surtout, ont été vraiment très très élevées. Et puis, il y a eu à un moment donné, je pense, il y a eu une certaine peut-être lassitude des créations de Alessandro Michele, qui était le directeur artistique de Gucci.
Plus.
Voilà. Et aussi, il y a eu moins de demandes au niveau de l'Asie, qui est un marché clé pour Kering. Voilà. Donc, et puis, tous les phénomènes géopolitiques que nous connaissons.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron ou encore Alexander McQueen. Non, le thème de notre émission n'est pas une journée dans le dressing de Yann Marguet, mais une journée dans les comptes de Kering. La spécialiste de l'analyse financière des sociétés du luxe, Isabelle Chabou, est avec nous pour zoomer sur ce groupe Kering qui doit changer de patron dans quelques jours. Alors expliquez-nous d'ailleurs, Isabelle, quel sera le rôle, qu'est-ce qu'on attend de Luca De Meo au sein du groupe?
Alors Luca De Meo va arriver en tant que directeur général. Et François-Henri Pénaud demeurera président, directeur général. Donc, il demeurera président du conseil d'administration. Donc, normalement, Luca De Meo va avoir toute la responsabilité de la gestion, on va dire, opérationnelle, les décisions. François-Henri Pénaud gardera la direction du conseil qui pourra éventuellement avaliser certaines décisions.
C'est quand même un désaveu pour François-Henri Pénaud.
Alors, on peut le voir de deux façons, je dirais. D'un côté, c'est dire, je suis conscient qu'il y a des changements à mener et je fais appel à un regard neuf, quelqu'un d'expérimenté, qui a une fine connaissance des marques, un profil international et aussi réussi merveilleusement le retournement de Renault qui l'a amené vers une très bonne rentabilité.
Oui, mais c'est quand même un choix assez bizarre. Il ne vient pas du tout du milieu du luxe, c'est un profil assez industriel. Ça a dû surprendre quand même ce choix.
Effectivement, donc je pense que ça surprend pas mal de personnes. Personnellement, j'ai un peu réfléchi à la question et je pense qu'il y a des similitudes. Je parlais du côté international, il a travaillé pour des sociétés cotées, il est vraiment considéré comme quelqu'un qui fait une analyse très fine des marques, quelqu'un qui est très ancré dans la transformation. Donc tout ça...
Il a la réputation d'être un redresseur d'entreprise, un peu, c'est ça ?
Donc ce sont des compétences qui peuvent être transversales. Mais il y a d'autres différence, effectivement, comme par exemple, vous parlez de toutes ces maisons de mode, vous savez qu'il y a une valse des directeurs artistiques assez. Donc, les designers vont tourner beaucoup plus vite que, par exemple, chez Renault. Il y a un cycle dans la mode qui est très court, il y a des problèmes de collections qui, si elles ne sont pas vendues, seront l'année prochaine, ne pourront pas être écoulées. Donc, il y a quand même un certain nombre de différences.
Oui, c'est plutôt un bon patron. Médiatiquement, quelle place il va prendre ? Qui va, quand on dira le patron de Kering, on parlera de Luca De Meo ou on parlera du fils Pinault ?
Voilà, c'est la question, effectivement.
Comment ils vont se répartir ce rôle-là ?
Voilà, donc je pense que vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le règlement AFEP-MEDEF, qui donne des pistes de bonne gouvernance d'entreprise. Et là, on est dans un cas qu'on appelle de dissociation des fonctions, justement, de président du conseil et directeur général. Et une des recommandations, c'est souvent d'indiquer quelles vont être les répartitions des tâches. Parce que c'est effectivement tout à fait, je vous rejoins totalement.
Là, et surtout qu'il prend de la place, Luca De Meo. C'est quelqu'un qui fait parler de lui et qui aime faire parler de lui.
Complètement.
On revient sur cette enveloppe de 20 millions d'euros, cette prime à la signature, pour dire, parce que vous nous expliquez en antenne que ça paraît délirant, mais ce n'est pas une somme qui tombe du ciel. Elle correspond à quelque chose de très précis.
Tout à fait, oui, Mathieu, vous avez tout à fait raison. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elle correspond à la rémunération qu'il n'a pas eue chez Renault du fait de son départ. Donc en fait, ça compense ce qu'il a perdu, notamment des actions liées à la performance de son plan stratégique Renault-Lucien.
Il venait de renouveler son contrat chez Renault, donc du coup, qu'est-ce qui l'a poussé à rejoindre Kering, Luca De Meo ?
Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un homme qui aime les défis, qui...
Le prestige aussi de la marque,
peut-être ? Voilà, le prestige. C'est un Italien. Peut-être qu'il y a aussi un petit côté Gucci, Brioni, Pomellato, Bottega Veneta. Enfin, voilà, je pense qu'il a tout à fait... Voilà, ça, c'est, à mon avis, assez important. Ensuite... effectivement,
l'argent.
Peut-être l'argent, oui, c'est possible que ce soit un facteur, puisque, comme je vous l'ai dit, sa rémunération brute sera plus importante, son variable aussi, etc. Donc,
on sait s'il y avait d'autres noms que le sien sur la shortlist ?
Personnellement, je ne les connais pas. Je sais que le conseil d'administration a travaillé de concert avec deux cabinets de recrutement et il justifie justement le salaire et tous les éléments variables par la rareté des profils, en disant voilà, des personnes comme ça, il y en a peu sur le marché. Et donc, je pense qu'ils ont considéré que... Et visiblement, il a été proposé et il a fait l'unanimité du conseil d'administration puisqu'elle a été nommée le 16 juin 2025.
Enfin, 20 millions d'euros pour un type qui a validé le design du dernier Renault Kadjar. Kering va-t-il dans le mur ? Quentin, c'est aux abords de la bourse de commerce.
C'est le scénic de notre époque, c'est pas beau.
Hélas. Quentin, c'est aux abords de la bourse de commerce que vous êtes allé discuter avec les gens aujourd'hui.
12h30, c'est l'heure de la pause déj. Je traverse le passage piéton de la rue du Louvre au cœur de Paris et je tombe en face de ce bâtiment rénové d'un blanc éclatant. Les passionnés d'art entrent et ressortent. Jean-Frédéric est assis sur un de ces bancs dorés très design qui sont faits de tubes posés en courbe tout autour du bâtiment. Nous discutons.
La bourse du commerce, interrogeons-nous. Ce bâtiment était quasiment vide et sans fonction, donc il fallait en faire quelque chose. On vit dans une ville de musées, là on est juste à côté de Saint-Eustache, on voit, on vénère aujourd'hui les choses anciennes. Et on est une des rares sociétés qui ne vivons pas avec l'art de notre temps. Donc c'est intéressant d'aller se confronter avec l'art de notre époque, le 21e siècle. Voilà, Pinault nous montre les choses contemporaines. C'est assez intéressant. Voilà. Est-ce que j'aime ou pas ? Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, mais c'est cohérent, surtout. C'est justifié.
C'est cohérent. Je salue Jean-Fred et je croise la route de ce jeune homme.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Benjamin.
Vous avez l'air sympa, vous ?
Oui, merci.
Vous avez rendez-vous où ? Faites quoi ?
J'ai rendez-vous chez mon psy,
Il est sympa ?
Il est très cool, ouais. Kering. Moi, ça me fait penser à une péninsule en Irlande, donc je pense pas que ce soit la réponse... Ah oui, c'est la holding de la famille Pinault. François Pinault l'a fondée aujourd'hui. C'est son fils François-Henri Pinault qui dirige. Ça m'inspire pas grand-chose, ouais. Je suis déconnecté de tout ça, donc...
Ça vous écœure un peu, ça ?
Oui, un petit peu, ouais. C'est pas mon monde. Donc je m'y intéresse pas, ouais.
En laissant repartir Benjamin, je rencontre ces deux jeunes cadres dynamiques, parisiennes. Elles sortent d'un déj entre copines et profitent d'un moment pour aller se balader dans la collection d'art contemporain de la Bourse de Commerce. Connaissent-elles ?
Kering.
Kering,
pour moi, c'est un groupe de luxe de Pinault. Et c'est un mot breton, je crois, non ?
Oui, et c'était d'ailleurs dans le merveilleux d'où ça sort de Cyril, care qui veut dire foyer en breton, caring pour caring, prendre soin des autres, que leur inspire le nom de Pinot.
Très grosse famille, beaucoup de pouvoir, beaucoup de marques, voilà, avec tout ce que ça comprend.
C'est-à-dire ?
À la fois du très positif, de la création d'emplois, des beaux produits et en même temps...
Une recherche de croissance, tout le temps plus d'argent, tout le temps plus de profit. Mais ce que je trouve bien avec Kering, c'est d'avoir une contre-force, un contre-pouvoir à LVMH, même si en ce moment Kering, c'est un peu compliqué. Ce qu'on lit, c'est qu'il y a des marques du groupe qui vont un peu moins bien.
Ah, mais alors qu'est-ce qui se dit ? Moi, ça m'intéresse dans le domaine, mais je sens qu'on n'ira pas plus loin.
Potentiellement, je pourrais travailler pour eux, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Pinot est formidable.
Ah, vous le trouvez formidable ?
Il est formidable, monsieur Pinot.
Un bel homme.
Oh, on va. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais non, en vrai, il est super sympa. Le fils, il est super sympa avec les employés quand il vient dans les boutiques et tout.
Ma dernière rencontre, c'est ce binôme d'architectes parisiens, classeurs sous le bras, en train d'observer cet édifice coincé entre Saint-Eustache et la canopée du Forum des Halles à Paris.
Si, c'est le groupe Kering Pinot, le groupe Pinot du coup. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
On parle de ça et je demande le rapport que les gens ont avec ces familles-là.
Ah, et l'art. Et l'art contemporain, ou l'art, ou les fondations.
Enfin, juste débat il y a deux jours.
Ah bah alors, on adore débattre, nous ici à Zoom Zoom Zen, la longévité du Zoom Zoom Zinc en est la preuve vivante. Il disait quoi ce débat entre amis architectes ?
Et alors, c'était compliqué, parce qu'il y avait une sorte de dichotomie entre le rapport à l'art, c'était la question surtout du financement public de l'art. Comment est-ce que les financements publics sont en train de déserter le milieu de l'art et qu'ils mettent dans un contexte de précarisation complète les jeunes artistes ? Et après, on réfléchissait au fait que si on remet un peu en perspective dans l'histoire, on se rend compte que l'art a de tout temps, en fait, vécu avec le mécénat privé.
Son collègue qui l'écoute réagit.
Moi, je vais surtout parler des lieux. Je trouve assez exceptionnel de pouvoir avoir des lieux emblématiques, comme ça, en plein milieu de Paris. Moi, ça ne me gêne pas que ce soit des fondations privées, au final. À partir du moment où on va parler d'architecture et on va parler de qualité architecturale. Voilà.
C'est ce que peuvent avoir des grandes fondations, c'est aussi un poids politique face aux municipalités, mais aussi aux structures des monuments historiques, notamment à Paris, qui sont assez pointilleuses. Je veux dire, politiquement, ils sont capables de dire « moi je mets des millions, vous m'autorisez ça ».
Donc on est sur des projets qui sont effectivement, qui je pense, pharaoniques en fait, qui sont absolument stratosphériques, j'ai envie de dire.
Et voilà peut-être le cœur du paradoxe entre la défiance envers la fortune et l'admiration pour la beauté. Chacun choisit son camp. On défiscalise d'un côté, on se rachète une image de l'autre, mais au final, les portes sont quand même grandes ouvertes et tout le monde peut venir admirer la facture, artistique comme fiscale.
Boum.
Boum, à lui, il travaillera.
Ça dénonce.
Pas, il travaillera pas pour Kering.
Ils n'auront pas mon CV non plus.
Oh, réellement. Ils savent pas ce qu'ils servent. Isabelle Chabou, quand j'écoute ce micro-trottoir, j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas sur la famille Pinot le même rejet qui peut exister quand on parle de Bernard Arnault, par exemple. Est-ce qu'il y a comme ça dans le cœur des gens, le cœur des gens penche plutôt vers Pinot ?
C'est difficile à dire, mais disons que peut-être que les origines bretonnes, je ne sais pas si ça joue ou pas. Aussi, peut-être cet engagement, personne ne l'a mentionné, mais vers le développement durable et notamment la lutte, donc que ce soit à la fois sur la biodiversité et la nature, mais aussi contre les violences faites aux femmes, etc. Je pense que peut-être que c'est un moyen aussi d'attirer certaines sympathies. Peut-être qu'il paraît extérieurement aussi...
Oui, plus sympa comme ça, spontanément. On
voilà,
entendu,
comme les gens l'ont dit.
Il paraît qu'il est très sympa, le fils Pinot, avec ses équipes, c'est ce que dit la jeune femme. Donc il y a une bonne réputation. Kering, ça a marché, on prend soin des autres et de ses équipes, entre guillemets.
Voilà, si effectivement Kering se traduit dans la pratique, peut-être qu'il est plus proche effectivement des gens. J'avoue que je ne l'ai pas côtoyé, je n'ai pas encore eu cette opportunité, mais effectivement, il fait aussi peut-être moins la une des journaux en parlant juste de lui. Il mentionne toujours beaucoup, il met beaucoup en avant la créativité et les directeurs artistiques des différentes maisons, Demna par exemple, qui était avant chez Balenciaga, Siaga et qui a repris la direction artistique de Gucci.
Justement, c'est quoi la marque la plus importante pour Kering aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça demeure Gucci et c'est aussi pour cela que la rentabilité a beaucoup chuté parce que Gucci représentait la plus grosse part du chiffre d'affaires, plus plus de 60% à un moment donné. On est à 44% fin 2024. Mais c'est l'essentiel de la rentabilité du groupe. Donc quand Gucci va moins bien, c'est le groupe entier qui en pâtit. Donc aujourd'hui, ça reste Gucci. Justement, il y a une trop grosse dépendance, à mon avis, sur Gucci.
J'ai choisi la bourse de commerce. Quand on regarde Paris, il y a un peu une réponse entre la famille Arnault, la famille Pinault, parce que chacun a sa fondation.
Tout à fait.
Il se tire la bourre, si j'ose dire. Comment vous l'observez, ça ?
Oui, alors, effectivement, comme l'a mentionné tout à l'heure Loïc, c'était...
Cyril,
excusez-moi. C'était... cela a démarré certainement avec l'acquisition de Gucci. Beaucoup disent que c'est la seule acquisition que Bernard Arnault n'a pas réussi à concrétiser. Donc, est-ce que ça vient de là ou d'avant ? Mais il est vrai que je pense qu'ils sont souvent sur les mêmes acquisitions. Quand l'un achète un vignoble, l'autre en achète aussi. Quand l'un crée sa fondation, l'autre développe la sienne encore plus.
C'est marrant, c'est presque enfantin, c'est presque puéril.
C'est vrai que c'est assez amusant. Mais Pinault, par exemple, ils ont la bourse du commerce maintenant, mais ils avaient commencé en Italie avant à Venise. Donc ils ont le palais Grati et puis la dogana. Là. Donc ils ont. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette
petite rivalité.
Cette rivalité qui est sous-jacente.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Comment parler du groupe Kering, poids lourd du luxe et de la mode, sans évoquer le drame qui s'est joué dans ce studio ? Souvenez-vous. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et Zoom Zoom Zen fait un saut dans l'inconnu. Pour la première fois, nous parlons de mode. Pire, nous parlons de mode avec Loïc Prigent, le plus redoutable des journalistes mode. Pour l'occasion, Quentin, que l'on surnomme dans l'Alençonnais Tiny Tom Ford, avait revêtu sa plus belle pièce, son blouson Valentino Rossi. Il n'a fallu attendre que 17 secondes pour que le jugement de Loïc Prigent tombe, aussi cruel que celui de Guillemette, la fanzouze de Le Corbusier.
On dirait une étiquette de cagette.
Mais... l'histoire a finalement donné raison à ce précurseur puisque Lando Norris portait le même blouson, l'exact même blouson ce week-end.
Lando Norris peut-être.
Oui, Lando, moi je l'appelle Lando comme un petit Lando parce que vous savez, je suis père de famille nombreuse et je connais plus les Lando que les Lando.
La justification est belle.
Le pilote de F1 a porté cette même veste.
Exactement. Peut-être un jour, Lewis Hamilton portera votre fameux pull blanc oversize. En tout cas, Quentin, je vous donne l'occasion de redorer votre blason et votre blouson avec ce quiz en mode bio-Tinder. Jouons au Zoom Zoom Test. Top, c'est parti, première bio. Coucou les gourmands. Marre de traîner avec des poufs habillés en pimki ? Et si tu matchais avec une icône de l'élégance ? Oui, mon nom est connu partout dans le monde. Comme Pierre Courade à l'hôtel Ibis Budget de la Porte de Bagnolet, j'ai même une chambre d'hôtel qui porte mon nom. Sauf que c'est pas un Ibis Budget et c'est pas Porte de Bagnolet. C'est Place Vendôme à Paris. Si tu y passes, demande la chambre numéro 5. Préférence pour
Chanel. Coco Chanel.
Coco Chanel, oh oui, bonne réponse de Quentin, bravo. Coco Chanel qui, comme vous le sauriez si vous aviez eu la curiosité un jour de séjourner au Ritz, a vécu là-bas de nombreuses années. Mais c'est le problème, vous n'êtes pas curieux. Attention, on continue
c'est
de swiper.
C'est pas ses meilleures années.
Non, c'est pas ses meilleures années. Effectivement, c'est des années 40. Attention, on continue de swiper et on tombe sur cet autre bio Tinder. Salut bébé, je suis cette bête de sexe que tu désires mais que tu ne présenteras jamais à ta mère. Comme la Marianoche, mais en beaucoup, beaucoup plus cher. Je suis too much, oui, clinquante, un peu comme des iguales. Mais là encore, en 100 fois plus cher. Dorure, strass, imprimé fou, je m'autorise toutes les excentricités, à l'instar de celle qui m'a créé. La sœur de celui qui est mort assassiné, qui porte presque le nom d'une tortue ninja.
Vivienne Westwood ?
Michelangelo ? Angelo, ouais,
justement. Il y a qui ?
Michelangelo. Raffaello
et...
Donatella Versace.
Vous êtes vraiment des nullos en mode. Oui, fondée par la fratrie Gianni, celui qui est mort assassiné, Santo et Donatella Versace en 78, la marque italienne incarne l'excentricité dans toute sa splendeur et peut être résumée comme l'antithèse de la maison Blanc du Nil dont Cyril était égérie senior pour l'Île-de-France et le Luberon.
Oh là là.
Mais restez sur le coup, les amis, aussi affûté qu'un premier jour de solde sur Chine pour la prochaine bio Tinder. Kikou, mes mignons. Pas souvent ici, plus Grindr que Tinder. Pas souvent à Paris non plus, plus souvent à Marrakech.
Marc Jacob.
J'ai un joli jardin très coloré. Mes créations, elles sont plutôt sobres. Si tu aimes mes smokings, mes sariennes, mes cabans, mes trench coats, tu seras peut-être mon mouton et je serai ton berger. Oh oui, bonne réponse, Yves Saint Laurent. Bravo, Quentin. Quoi, vous y connaissez un petit peu en mode hein ?
Non.
Histoire de la mode,
un
en
peu.
Tout cas.
Il a vu le biopic avec Pierre Ninet, bon, comme tout le monde.
L'autre.
La marque, ah oui, c'est vrai qu'il y avait
de Bertrand Bonnet,
concurrence.
Avec Gaspard Huliel.
Où il est allé à Marrakech.
Oui, c'est tourné. Bah, les deux.
La marque Saint-Laurent, qui avait été rachetée en 93 par Sanofi, ça vous ne le saviez pas, et puis en 98 par devinez qui. Non, mais notre invité, bien sûr. Mais qui l'a racheté en 98, la marque Saint-Laurent ?
Ah ben, il n'y a pas de Propal ?
Ben non, je vous le donne, mais on fait l'émission là-dessus.
À Kering.
Oh oui, bien sûr.
Pinot, c'était pas Kering.
Oui, en plus, mauvaise réponse, non, c'était Pinot. Mais attention, main sur le buzzer, même si on n'a pas bio suivante. Mon nom est peut-être rigolo, mais mon chiffre d'affaires te donnera le vertige. Boots poussiéreuses, blouson bohème, faussement désinvolte. On dirait que j'en suis à mon quatrième jour au festival de Glastonbury.
Chloé.
Et pourtant, on dit que les meilleurs animateurs radio portent mes pièces. Normal, il faut bien quelque chose pour habiller le talent.
Quoi ?
Balenciaga ? Non, je sais pas.
J'ai jamais porté de Balenciaga. Quand je parle des meilleurs animateurs radio, c'est souvent de moi qu'il s'agit.
Quand il pensait qu'on parlait de lui, pardon.
Mon nom est rigolo.
Votre nom est rigolo, bah je sais pas. Votre nom est rigolo.
Vous connaissez la marque Isabelle Marant ?
Ah !
Je l'embrasse si elle nous écoute.
Mais, mais c'est pas du luxe, c'est du prêt-à-porter.
Je suis d'accord, c'est pas du luxe.
Ah voilà, là, merci. Là. Bah oui, vous dites marque de luxe.
Alors Isabelle, faites très attention. Vous avez déjà qualifié notre directeur en chef de Loïc tout à l'heure. Je vous demanderai de ne pas vous en prendre à ma garde-robe. Mais continuons notre fashion dating. J'ai plus de cuir que d'empathie et je ne me laisse monter que par des cavaliers confirmés. J'aime les longs trajets, les attaches solides et le savoir-faire. Si tu souhaites Hermès. À droite, sache qu'avec moi, ça ne sera pas de l'amour mais du dressage. Hermès, bien joué. Bien joué, Quentin, saviez-vous ? Magnifique illustration sonore. Saviez-vous qu'Hermès était le fils et messager de Zeus et que c'est cette symbolique du message et du voyage qui a inspiré le nom de cette marque ? Non, vous ne le saviez pas, évidemment, normal, puisque la marque a été fondée par Thierry Hermès en 1837 pour fabriquer des harnais de chevaux. Comme quoi, des fois, on croit savoir et puis en fait, on ne sait pas. Victoire de Quentin Luy sur le 3-0 et 1
bravo,
et 2 et 3-0. Que d'émotions.
Oui, bon, voilà.
Que d'émotions.
Tant mieux pour lui, peut-être en même temps.
Saluez un peu votre public, Quentin.
Oh, je peux saluer ma compagne, surtout.
Oui, voilà. Merci.
Vous avez fait de gros progrès grâce à elle.
Page 16, Mathieu.
Mais la page 16, bien sûr, mais encore faut-il la trouver, Manon.
C'est
tout le problème. C'est tout le problème de retrouver cette foutue page 16.
Elle est dans votre main.
Elle est dans ma main, effectivement, et dans mon autre main, la page 17. Le quatrième groupe de luxe au monde, Kering, change de direction dans quelques jours. C'est notre sujet dans Zoom Zoom. On est toujours en compagnie de la spécialiste de l'analyse financière des sociétés de luxe, Isabelle Chabou. Isabelle, Kering en difficulté. Est-ce que Bernard Arnault se frotte les mains en ce moment ?
Je ne sais pas s'ils se frottent les mains, mais en tout cas, bah, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a toujours une rivalité. Donc,
mais est-ce que lui, ses ventes décollent
non, pas du tout. Alors, si on regarde les derniers chiffres, hein, ils ont tous publié leur résultats au premier semestre 2025, LVMH est à moins 4%, donc une baisse qui est quand même relativement modérée vu le contexte. Hermès continue à progresser à 7 ou 8%, suivant si on prend les taux de change constants ou réels.
Contre le courant du marché qui est à la baisse, le marché du luxe.
Exactement. Et par contre, effectivement, Kering, on l'a déjà dit, baisse plus fortement
que les autres. Voilà.
On a l'impression que c'est la crise dans le luxe et en même temps, on nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de riches dans le monde.
Mais c'est un peu bizarre. C'est possible,
ça. Oui, bah, c'est toujours un petit peu les extrêmes. Effectivement, on a plus de milliardaires, etc. Parce que bah, tout ce qui est aussi, malheureusement, les guerres contribuent à l'enrichissement de certaines personnes. Et du coup, bah, vous avez ces ultra net worth individuals, comme on les appelle en anglais, les très, 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 très riches, plus de 30 millions de dollars d'actifs. Eux, ils ne sont pas vraiment touchés par... les problèmes de pouvoir d'achat ou quoi que ce soit. Par contre, vous avez des clients qui sont plus dits aspirationnels et qui, eux, ben, ont réduit sensiblement leurs achats.
Manon souhaite intervenir.
Oui, merci Mathieu. Est-ce que si le chiffre d'affaires de LVMH et de Kering continue à baisser, potentiellement, ils devront se séparer de certaines marques ? Ça peut être une issue.
Manon, vous avez tout à fait raison. Alors, je pense qu'on va avoir deux phénomènes. De la concentration, à l'inverse, des rachats, c'est-à-dire peut-être aussi des maisons qui vont souffrir et qui vont être rachetées par des grands groupes. Ça peut être Kering, ça peut être LVMH, ça peut être Richemont. Et aussi peut-être des cessions. On parle en ce moment, mais d'une cession qui est pas très grosse à l'échelle de LVMH, de Marc Jacobs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est possible qu'il cède Marc Jacobs. Mais,
à qui ?
Alors, on ne sait pas encore.
Portez-vous candidate.
Oui, voilà, bien sûr. C'est dans les tuyaux, comme on dit, mais voilà. Donc, effectivement, c'est possible qu'il y ait des cessions et à l'inverse, des rachats.
On avait consacré ici une émission aux dupes, ces produits qui ressemblent à des vrais produits de luxe sans porter la marque dessus et sans être aussi des véritables contrefaçons. Est-ce que ça aussi, l'engouement, notamment sur TikTok, de ces produits-là, est-ce que ça participe au déclin, entre guillemets, du luxe ? tout cas des moindres performances du luxe.
Alors, je ne dirais pas que c'est le phénomène majeur qui contribue au déclin. Ça l'affecte peut-être un petit peu.
Mais c'est marginal.
Je pense que c'est marginal. Mais responsabilité, je pense que les maisons doivent justement communiquer sur qu'est-ce qu'il y a derrière un produit. L'histoire, l'héritage, vous parliez de Hermès, on peut parler de maisons emblématiques qui ont un artisanat. Il faut qu'elles communiquent là-dessus pour que les gens comprennent.
Visiblement, ça marche bien pour Hermès. Le fait de communiquer sur le côté artisanal, voilà, ça fait vendre, dans l'ultra.
Mais imaginez, je me faisais la réflexion tout à l'heure en venant, si on vous dit, ok, ben voilà, c'est un dupe à tel prix qui fait une fraction du prix, peut-être que des jeunes sont intéressés, mais moi, si on me disait, est-ce que tu préfères acheter un vrai médicament qui vient d'un laboratoire ou une imitation, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, j'hésiterai pas une seconde, et je pense que personne ne le ferait. Donc.
Est-ce que le déclin de Kering peut avoir un impact sur l'économie française générale ?
Alors, le luxe est un très gros pourvoyeur d'emplois. On parle de 600 000 emplois directs, ouais. Plus d'un million d'emplois indirects. Si ça se trouve, il y en a encore plus. Enfin, tout dépend ce que l'on... et c'est vrai qu'à la fois, ils font vivre justement des métiers d'art, des métiers qui sont en train de disparaître. Et s'ils sont en difficulté, c'est possible aussi qu'ils réduisent, bien sûr, leurs effectifs.
Et qu'ils entraînent avec eux dans une sorte de chute d'autres...
Voilà, donc
dommage,
l'État va peut-être devoir sauver le luxe. Ça fera jaser, à mon avis.
Écoutez, je sais pas, je pense pas qu'on en soit encore là, à mon avis, mais il y aura peut-être des conséquences sur l'emploi. C'est malheureux.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Oui, aujourd'hui un créateur. Il s'appelle Pier Paolo Piccioli. Il est évidemment italien, comme son nom l'indique. Il est connu dans le milieu de la mode pour avoir dirigé la maison Valentino pendant plus de 20 ans. Longtemps discret, il est devenu l'un des couturiers les plus respectés de sa génération. Et si son nom a fait beaucoup parler dernièrement, c'est parce qu'il est devenu le nouveau directeur artistique de Balenciaga. Il succède à Demna Gvasalia, je vais le dire comme ça, qui a passé 10 ans à la tête de la maison de couture. Pier Paolo Piccioli n'a pas été choisi par hasard, évidemment. Formé à l'Institut Européen de Design de Rome, son parcours débute chez Fendi à la fin des années 80, où il dessine des accessoires aux côtés de Maria Grazia Chiuri. Ensemble, ils rejoignent ensuite Valentino en 99, à eux deux. Ils modernisent la maison et imaginent le succès planétaire des rock studs, des escarpins à clous qui rapportent des fortunes à la marque. Pendant 10 ans, ils travaillent en duo jusqu'en 2016, quand Maria part chez Dior et Pier Paolo reprend seul la direction artistique de la maison.
Alors comment votre Pier Paolo a fait de Valentino une des maisons les plus en vue ?
Eh bien, si beaucoup le connaissent aujourd'hui, c'est notamment grâce à sa signature, des immenses robes monochromes, des capes de tulle spectaculaires et surtout une couleur devenue emblématique, le pink pipi, un rose fuchsia intense adopté par Zendaya, par Florence Pugh ou encore par Anna Taoué. Il a développé cette couleur avec l'entreprise Pantone. Depuis, Pier Paolo Piccioli apporte aussi une couture radicale et inclusive. Diversité des mannequins, ouverture à la rue, à la jeunesse, mais toujours cette poésie baroque propre à Valentino. En 2019, il organise par exemple un défilé qui fait beaucoup parler. Il fait défiler des mannequins à un casting majoritairement noir, ce que la presse avait décrit comme un moment Black Beauty. Céline Dion était en front row du défilé, émue aux larmes. Oui. Céline pleurait. La même année, il invite la mannequin Lauren Hutton, 75 ans, qui défile dans une robe verte ivoire. Le moment est assez emblématique. Pour lui, la mode n'a pas d'âge, n'a pas de genre et n'a pas de couleur de peau.
Merci Manon. Une cape de tuile Pink Pipi. J'ai enfin trouvé votre cadeau d'anniversaire.
Ah bah
ça sera un dupe. Ça sera un dupe. Vous emballez pas non plus. Les défilés de mode, Isabelle Chabot, j'ai l'impression qu'ils coûtent de plus en plus cher. Est-ce que c'est encore rentable pour les maisons, ces événements-là ?
Les défilés de mode, c'est ce qui fait rêver.
C'est incontournable.
Voilà.
On est obligé d'investir.
On a eu un moment sans défilé avec du public pendant le Covid. Mmh. Donc, ils ont été sous forme digitale et retransmis et du coup accessibles à un beaucoup plus large.
Tout le monde pouvait être en front row.
Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment réservé à, on va dire, un nombre très très limité. Mais c'est repartagé sur les réseaux sociaux. Mais ça reste, je pense, un incontournable.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est, avec Carlos Moreno, l'inventeur de la ville du quart d'heure, le dernier fan vivant d'Anne Hidalgo. Il peut s'extasier pendant des heures sur l'aménagement des quais de Seine et la magie procurée par une baignade en combi dans une eau à 12 degrés envahie par les immondices. Mais là où il est le plus chiant, c'est quand il évoque les dernières nouvelles ecclésiastiques. Hier, il a passé l'intégralité du déjeuner à nous parler, photo à l'appui, du jeune de 15 ans canonisé et exposé avec ses Nike, preuve indubitable pour lui de l'extraordinaire modernité de l'église. Au décès, il nous a même forcé à regarder des images du corps de Bernadette Soubirous. Autant vous dire que s'il n'a pas repris du pain perdu.
Mais c'était infernal.
C'était
horrible.
Il nous a gâché le déjeuner. Pierre Courade, chaque après-midi, avec cette concision que vous n'avez hélas qu'à l'antenne, mais pas dans la vie, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Donc, Kering en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a zoomé sur un sujet qui pourrait sembler éloigné des préoccupations des Français, surtout en ce moment, mais qui est essentiel pourtant pour notre économie, le changement de direction à la tête du groupe Kering. Kering, c'est l'ex-Pinot Printemps Redoute, créé par François Pinot et dont le fils, François-Henri, est le président. Aujourd'hui, Kering est propriétaire de Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, mais François-Henri Pinot va devoir partager son pouvoir avec un nouveau venu, l'ancien patron de Renault, Luca De Meo. Le groupe traverse en effet une période de turbulence, les ventes du fleurant Gucci sont en chute libre, entraînées par un secteur du luxe en souffrance et une conjoncture mondiale incertaine. Conséquence, Luca De Meo est attendu comme le Messie, un Messie qui devrait quand même toucher 20 millions d'euros à la signature de son contrat, charge à lui de redresser la barre. Notre invitée, la spécialiste du luxe Isabelle Chabou, estime que Luca De Meo, malgré son profil industriel, a quand même une expérience internationale, une fine analyse des marques et une image de redresseur d'entreprise. Un choix donc plutôt judicieux, et on l'espère, car l'industrie du luxe, c'est 5% du PIB de la France, c'est plus que l'aéronautique. Voilà pourquoi l'avenir de Kering, c'est un enjeu national, et ce n'est pas Loïc Lacarrière qui me contredira.
Non, ce bon vieux Loïc Lacarrière.
Qu'est-ce que c'est drôle.
Ah oui, et vous
serez vexé.
À mon avis, ça va devenir un feuilleton. Bravo, bravo.
Désolé,
Pierre. Et très belle.
Vous en prie.
Oh, notre Sophie.
Allez-y.
Main sur le cœur à présent. Puisque nous recevons le fils du président du Parti communiste, nous venons de l'apprendre hors antenne.
En Côte d'Or.
Mais bientôt, du Parti communiste.
C'est Fabien Roussel.
Il monte les échelons. Il va bientôt bouffer Fabien Roussel, le papa de Jessé. Bonjour, mon cher Jessé.
Non, je t'en prie, fais ton lancement. T'es payé pour ça.
C'est vrai, mais j'avais pas vu qu'il m'avait fait un petit lancement qui n'a rien à voir. C'est au tour de Jessé maintenant. Pour qui Kering n'a plus aucun secret.
Oh, mais bonjour à tous. Ah, évidemment, sans surprise. On fait appel au Pédoc pour venir parler de mode et de luxe. Ah, et en même temps, quand on connaît les autres chroniqueurs de l'émission, qui d'autre ? Tranier ? Lol. Harold Barbet ? MDR. Ah, et puis c'est sûr que c'est pas la Courade qui va venir nous éclairer sur le sujet et que c'est plus la message d'habitude. Et quand j'ai su que le thème était Kering, je me suis dit enfin, je vais pouvoir pécho François-Henri Pinault et vivre la vie que je mérite sur un yacht aux Bahamas. J'en ai ma claque de prendre le métro pour venir faire le guignol à la radio et faire croire aux gens que je suis de gauche. Oh, une heure de transport en commun pour débarquer dans un lieu qui ressemble à un anneau gastrique. Ah non, mais les ventes au personnel ici, c'est quoi ? Un porte-clés à l'effigie de Nagui. Voilà, c'est pour ça que Léa Salamé s'est barrée. Moi, à la base, dans la vie, tout ce que je voulais, c'était dépenser un SMIC chez Gucci. Voilà, mais non, au lieu de ça, j'ai une gourde. Radio France s'engage. Et je dois répondre au mail de Cyril Lacarrière. Ah mais, de toute façon, première chose que je fais quand je me marie avec Pinot, c'est que je foule à Lacarrière en dame pipi. Voilà. Après avoir racheté France Inter. Et on lui filera une pièce que quand elle est aimable. Je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de s'acheter un sandwich. Mais bon, ça, évidemment... Tout ça, c'est dans ma tête. Évidemment, qu'on ne reçoit pas Bernard Arnault. Pardon, François-Henri Pinault, je les confonds, je plaisante. J'ai un tableau Excel qui recense tous les milliardaires. Avec l'âge de leur fils. Et de leur fille, j'avoue. Oh, bah, contre quelques milliards, je peux bien bouffer du pastrami. Oh.
Mais non. Fils, Pinault.
Oh, bah, je sais, mais ils sont tous pris.
Qui est le fils de Linda Evangelista.
C'est ma chronique, en revanche. Mais non, aucun patron invité aujourd'hui, même pas l'ombre d'un cas de sup. Hein, mais oh, surprise, une professeure. Hein, de toute façon, c'était ça, ou économiste. Hein, c'était hier, économiste, je crois. Hein, je suis trop sotte d'avoir signé pour une deuxième saison en pensant que j'avais trouvé l'amour. Mais merci de me donner des tips sur les fils. Ça me fait plaisir. En même temps, si des gens soumis à l'ISF venaient sur le service public, ça se saurait. Hein, enfin, vous me direz, il y a bien Mathieu Noël. Isabelle Chabou, en tout cas, je suis sûr qu'on peut quand même être copine parce que vous aussi, vous êtes experte en luxe. Hein, ça en fait deux sur le plateau. Et vous êtes aussi la première de nos invités à ne pas être venue habillée en désigual. Et rien que pour ça, merci. Rien que pour ça, je vous aime. Ah, d'ailleurs, ça va, c'était pas trop dur le début de l'émission sans moi?
Non.
Non, c'est vrai. Vous avez vu à quoi je suis confrontée? Voilà. Ah, bah, c'est pas la Fashion Week, ça c'est sûr. Hein, et encore, on a de la chance parce que Jennifer a fait faillite, donc Manon va enfin chez Zara. Ah, en revanche, tais-toi. En revanche, on peut rien. En revanche, on peut rien faire hein, pour Pierre Courade et ses slims.
Ah ouais.
Voilà, essayez pas, c'est un combat perdu d'avance, hein, sans compter sur Mathieu et ses t-shirts Chico's Pizza. On nous aura tout fait. En plus, je crois que le monde du luxe va mal en ce moment. Comptez pas sur les collègues pour relancer le secteur. Sur moi non plus, en vrai. J'ai fait le calcul avec mon salaire cumulé de toutes mes chroniques. Je peux m'acheter un costume Gucci, mais avec un Y, parce que je l'aurais eu à 26 000. Pour relancer Kering, François-Henri Pinault a nommé un Italien directeur général. Très bon move. C'est vrai que moi aussi, les Italiens ont toujours réussi à me remonter la barre. Oh. Un petit limoncello et ça repart. Ah Manon, bah oui, tu rigoles, toi aussi. Hein, les Italiens sont plus déshabillés que rhabillés, j'ai l'impression.
Ça va.
Mais oui, le nouveau DG a été débauché de Renault. À tous les coups, il va arriver devant le siège de Saint-Laurent en Kangoo, les pédocs de la mode en PLS. Ou alors ils vont être là, Slay l'utilitaire. Alors que finalement, c'est ça le summum du chic, savoir rester simple, comme mes collègues.
Exactement, merci beaucoup. GC, une chronique qui aura bien fait rire, en tout cas, Loïc. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Z, en spectacle à Paris dès la fin du mois aux Zèbres de Belleville et en tournée en 2026.
Oui.
On ne se refuse rien, toutes les infos sur icigc.com.
Et exceptionnellement, oui, quoi, en date temps, à Dijon.
Très bien.
Voilà, auprès de mon père communiste, le 7 octobre,
il sera là. Merci Isabelle Chaboud d'être venue nous expliquer
merci
ce qui se passe chez Kering. Et je rappelle que vous êtes professeur à Grenoble, l'école de management.
Zoom Zoom Zen.